Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo qui reprend à 11h. Alors on vous l'avait dit, hein, à partir de 11h, eh bien deux ouvrages avec les deux invités, donc Jean-Paul Liégeois, on va faire un petit réglage, vous le savez, puisque vous êtes dans le studio de Radio Libertaire, et donc on va voir si... Depuis ce matin, 10h, je crois, j'entends vos respirations. Ça fonctionne, donc on vous entend. Alors, deux ouvrages, Jean-Paul Liégeois, en particulier, bon, je vous le rappelle, Léo Ferré, Sous le boulevard du crime, de Daniel Panchenko, édité au Cherche Midi, Sur le boulevard du crime, en sous-titre, on va voir, très important, on va en parler ce matin, puisqu'il y a Fleuréal, aussi, dans le studio, pour l'histoire du TLP des Jazets, et pas de Jazets, hein, des Jazets, l'accent aigu, de 1986 à 1992, et un autre ouvrage, on va dire, pourquoi deux ouvrages, on va l'expliquer, Georges Brassens, qui est paru un petit peu avant, il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, de « J'ai rendez-vous avec vous ». Alors, gros bouquin, plus 1200 pages. Donc là aussi, préface, je vais le dire quand même, de François Morel. Mais surtout, Jean-Paul Liégeois, tu y as participé. C'est grâce à toi que ce livre existe, puisque c'est dit dans l'ouvrage. Et surtout, eh bien, il y a Yves Usureau pour quelque chose, une méthode... d'apprentissage de la guitare, ou tout du moins de perfectionnement, comme vous voulez, ça dure assez longtemps. Il y a beaucoup de pages, en particulier on évoque dessus les partitions, les tablatures, car il y a 180 chansons, les textes présents dans cet ouvrage. Alors, je vous dis tout de suite aux auditeurs, il y aura une émission. Yves Usureau ne sera pas là ce matin dans cette émission, ni dans celle de Rimes et de Notes. Mais Marlène, l'émission de Rimes et de Notes, fera une émission spéciale avec Yves Usureau dans quelques semaines ou quelques mois. À vous de suivre, et Marlène vous annoncera la venue de Yves Usureau. Aujourd'hui, ces deux ouvrages, Georges Brassens et Léo Ferré, et je voulais, donc, puisque Floral et puis Jean-Paul Liégeois, pourquoi on va les relier, pourquoi relier ces deux ouvrages, Jean-Paul, puisque d'abord leur sortie, hein, il y a combien, entre les deux, il y a un mois et demi,
oui.
Et puis on va expliquer aussi Fleuréal, enfin l'importance de Georges Brassens, enfin je l'ai évoqué au début de cette émission, c'est vrai que Georges Brassens était au Monde Libertaire dans les années 46, au Monde Libertaire, après aussi fréquenté, plus que, et participé, donc au Mouvement Libertaire, et la même chose, le rappeler aux auditeurs, hein, qui viendraient sur cette antenne et qui n'auraient jamais, enfin, entendu parler, s'ils n'ont pas entendu parler de Léo Ferré, de Georges Brassens, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, de revenir sur l'historique de Léo Ferré, en particulier sa participation au Mouvement Libertaire, et plus que ça, le studio de Radio Libertaire aussi, qui existe en partie grâce à Léo Ferré. Alors, Fleuréal, tu as, je le rappelle, hein, dans cette émission, quelquefois, je le dis, d'aller voir sur ton blog, hein, le blog en particulier, tu as fait un article sur une recension de l'ouvrage de Daniel Panchenko, Léo Ferré, sur le boulevard du crime, et tu évoques donc dans cet ouvrage, évidemment, le lien, hein, entre le Mouvement Libertaire et la chanson.
Oui, ce que tu disais, donc Brassens et Ferré, évidemment, ce sont les deux artistes emblématiques, hein, compte tenu des liens que ces deux grands ont eu avec le Mouvement Libertaire d'après la Libération. Puisque tu l'as rappelé brièvement, Georges Brassens... quand il est, après être monté, comme on dit, à Paris, a pris contact avec ce mouvement libertaire, il faut croire qu'il avait une pensée qui correspondait à peu près à celle de ce mouvement, disons. Et il a fait plus que prendre contact, puisqu'il en est devenu à un moment un permanent du journal, le Libertaire. Et puis bon, après, il s'est lancé dans la chanson. Et ce qui les réunit, ces deux personnages, bien qu'ils n'aient pas tout à fait le même caractère, Brassens et Léo Ferré, c'est d'avoir pendant de nombreuses années accompagné l'histoire de ce mouvement libertaire et de la Fédération anarchiste en particulier, puisqu'ils ont tous deux, mais surtout Léo Ferré quand même, participé au gala que cette organisation a organisé très régulièrement pour soutenir ses organes, comme on disait. Enfin, à l'époque, ça se limitait au seul journal, Le Monde Libertaire, mensuel, puis ensuite hebdomadaire. Et puis, à partir de 81, mais là, Brassens avait disparu, puisqu'il est décédé un mois après la création de Radio Libertaire, donc il a jamais pu épauler cette radio, ni même venir y parler. Et après 81, donc c'est surtout Léo Ferré, bon, qui a continué, et qui, d'ailleurs, on peut le dire, a continué jusqu'au bout, jusqu'à la fin, à soutenir la Fédération anarchiste et ses œuvres, comme on disait alors, et à tel point qu'on peut effectivement affirmer que si nous avons pu sortir de ce qu'il était difficile quand même d'appeler un studio, de la cave humide montmartroise où cette aventure a commencé, c'est grandement et même pratiquement exclusivement grâce à Léo Ferré qui, à travers les galas donc, que nous avons organisés, est venu chanter, tout et toujours bénévolement bien sûr, pour que nous récoltions de la menue monnaie afin de sortir de cette cave, je disais, pour aller d'abord dans un studio déjà beaucoup plus convenable, toujours à Montmartre, et pour finir enfin dans celui-ci, que l'on doit effectivement à cet homme, à Léo Ferré. Je ne sais pas si tu as connu la cave, Jean-Paul. Si, tu as connu la cave. Oui.
Non, surtout, j'ai souvenir en plus que, mais alors je ne sais pas si je peux pas le dater exactement, je ne sais pas si c'était en 1982 ou 83, qu'il y a eu quand même une petite invasion policière dans les locaux avec beaucoup de.
Alors, c'était pas dans la cave, ça, c'était dans le studio d'après. Oui,
oui, oui, mais il y a eu des dégâts.
83.
Ouais. Et Léo, quand il a été sollicité, on lui a demandé, je crois, me souvenir, de venir, de participer, etc. Il en avait pas très envie, puis quand il a su ce qui s'était passé, il a répondu oui immédiatement. Donc là aussi, il y a eu un grand gala, je crois me souvenir, sous un chapiteau, qui a permis effectivement ensuite de reconstruire quelque chose et d'aménager un studio.
Il y a eu un gala, je crois.
Il y a eu ce gala absolument phénoménal.
Oui, c'est ça, il faut le rappeler. Ballard.
À l'espace Ballard, oui, il n'existe plus maintenant. Où là, alors ça a été quelque chose de phénoménal, puisque ça a réuni entre 6 et 7 000 personnes. C'était quelque chose d'absolument formidable. Et là, effectivement, ça a été plus qu'un coup de pouce, ça a été quelque chose d'absolument phénoménal. Voilà.
Alors.
Parler dans le luxe.
Oui. La particularité alors de l'ouvrage de Léo Ferré sur le boulevard du crime, on va dire justement, c'est une période particulière, 86, puisque là on est 5 ans après, 81, là, jusqu'à 92, donc tu évoques 7 ans. Et là, d'abord dire pourquoi Léo Ferré sur le boulevard du crime. Essayez, hein, Jean-Paul, de le.
Bon, j'ai trouvé le titre.
C'est alors, pour ça.
D'abord, je dois dire en préalable que Daniel Panchenko a beaucoup suivi cette période en tant que journaliste et qu'il avait beaucoup de documents. C'est-à-dire, s'il avait fallu faire le livre et demander à quelqu'un d'autre de l'écrire, on aurait quand même été obligé de lui emprunter tous ses documents. Il a interviewé Léo plusieurs fois. D'ailleurs, il y a deux de ses interviews qui sont dans le livre à l'époque. Donc, il a suivi ça avec passion, avec tout ce que ça entraînait sur une programmation d'autres artistes dans la foulée, dans le sillon dans le sillage de Léo Ferré. Et c'est effectivement, je pense que dans le détail, peut-être plus que moi, moi je l'ai suivi artistiquement, mais dans le détail de la gestation de cette histoire, Floréal en sait peut-être plus, ou s'en souvient peut-être plus. Au départ, c'est surtout le vrai départ du TLB de Jazzé, c'est la création d'un groupe, d'une association qui effectivement a déposé ses statuts et qui s'appelait le Théâtre Libertaire de Paris. Ensuite, elle cherchait un lieu, mais anecdotiquement parlant, ce n'est pas Léo Ferré qui a suggéré le lieu et qui a suggéré d'aller voir le propriétaire du Déjazé, vieux théâtre boulevard du crime, parce qu'en fait c'est le boulevard qu'on voit dans Les Enfants du Paradis et que le préfet Haussmann a en partie détruit. Pourquoi boulevard du crime? Pas parce qu'il y avait particulièrement des voyous au mètre carré en grande densité, non, c'est simplement parce que dans la plupart des théâtres de ce boulevard, qui était le boulevard du Temple, dans ces théâtres, on jouait des pièces où il y avait beaucoup de crimes, beaucoup d'assassinats, comme aurait dit d'autres. Voilà. Donc, j'ai choisi ce titre parce que je trouve qu'il était parlant. Mmh. C'était le renvoi à l'histoire et aux Enfants du Paradis.
Aux Enfants du Paradis.
Mais à l'origine, c'est Lavilliers qui a signalé aux camarades anarchistes du TLP qui avait fait cette association, qu'il y avait un type qui s'appelait Jean Bouquin, un couturier qui possédait un théâtre et que peut-être il y avait peut-être une affaire à faire avec lui parce qu'il cherchait des gens pour le gérer, pour faire une programmation, etc. Donc c'est pas Léo qui a été à l'initiative. Par contre, quand il a été sollicité, il a tout de suite embarqué dans l'affaire et il a vraiment été, je le dis en rigolant, le porte-drapeau, même s'il aimait pas les drapeaux, le porte-drapeau de l'opération pendant presque 7 ans, effectivement.
Alors, je prends le souvenir d'ailleurs que Daniel Panchenko, au début du bouquin, il comptabilise les fameux crimes qui ont lieu dans ces caisses de théâtre, dans les théâtres, qui
c'est
sont
ça.
Sur le boulevard, il y a je ne sais plus combien de.
Oui, là, on a la liste, le nombre. Oui, exactement.
Sur la scène, hein, pas dans les rues.
Sur la scène,
oui, mais là, c'est, je pensais à ça, ça rejoindrait un peu, enfin, malheureusement, toutes les séries télé actuellement, c'est ça, c'est tous les jours, donc on dirait c'est la télé du crime. Donc c'était le boulevard du crime à l'époque, et donc recenser le nombre de morts, de victimes, d'assassinats sur chaque chaîne de télévision tous les jours. Alors, là aussi, tu parlais, t'évoquais les Enfants du Paradis, où dedans, on évoque le théâtre des funambules.
Voilà. Hein,
c'est ça.
Et donc, le Déjazé, le sol est le dernier de ce boulevard. Haussmann, quand il a eu le feu vert de badinguer de Napoléon III pour faire des grandes rues dans Paris, des grandes avenues, des grandes artères, pas du tout pour enjoliver les choses architecturalement, mais simplement parce que les rues étroites, en cas d'émeute, en cas d'insurrection, en cas de barricade, c'était très enquiquinant. Donc, il fallait permettre aux troupes à cheval, à l'époque, de foncer sur les manifestants. C'est purement quelque chose de politique et de répressif qui a suscité la transformation. Bon, il y a le fameux boulevard Haussmann, justement, qui est un modèle de ça, mais c'est ce qui s'est passé sur les boulevards populaires entre République et Bastille. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que des tas de théâtres ont été détruits.
Alors, Floréal, on parlait alors le choix du théâtre Déjazé, de l'association, et on évoque deux personnes importantes, évidemment, puisqu'on parlait tout à l'heure de la création de Radio Libertaire. On évoque Jackie, et puis on évoque aussi Hervé Trinquier, donc qui sont justement pour le choix, choix du théâtre et aussi fonctionnement. Libertaire, on va l'aborder, de cette association, comment les gens au début ont commencé, et puis une personne évidemment importante qui a mis la main à la pâte et à la gâche, Alain Oranche.
Oui. Le point sur lequel il me semble important d'insister, c'est, je crois, dans cette histoire, comme
à un degré nettement moindre, la petite aventure du trou noir, par exemple, qui a eu lieu rue Nationale, l'histoire de ce petit cabaret qui a existé pendant 2-3 ans. Tout ça, pour moi, ces paroles n'engagent que moi, comme dit l'autre, c'est c'est l'existence, la création de Radio Libertaire qui a joué un rôle fondamental là-dedans. Mmh. En 81, lorsque nous avons créé cette radio, ce qui a fait, à mon sens, son originalité, sa force, plus que le discours politique qu'on pouvait y tenir, je crois, c'est l'accent qui a été mis sur la partie artistique et en particulier la chanson, puisque les deux autres copains qui avec moi étaient à l'origine de cette aventure, on avait à quelques années près le même âge et les mêmes goûts musicaux qui se portaient essentiellement sur ce qu'on a appelé la chanson française de qualité, en rigolant un petit peu, mais c'était ce qui faisait sa spécificité. Je crois que quand on se baladait sur nos transistors, nos postes de radio, sur la bande FM à l'époque, et qu'on tombait sur Mouloudji, Cosimon, Barbara et autres, on avait 9 chances sur 10 de savoir qu'on était tombé sur Radio Libertaire.
Plus maintenant,
c'est vrai. Il y avait peu de radios qui, en matière de programmation musicale, faisaient comme nous, c'est-à-dire qui passaient cette chanson-là. Et donc, il y a eu cela, et ça a évidemment joué un rôle auprès de ce monde artistique, de ce monde de la chanson. Moi, je me souviens, on évoquait la cave humide de Montmartre, tout à l'heure, où cette aventure a commencé, avec Gérard et Julien, quand même, on a pu déjà, dès les premières semaines et dès les premiers mois, et je pense qu'ils ne devaient pas être très habitués à ces conditions matérielles que nous avions alors, qui étaient quand même très pauvres, des gens comme Cosimon, précisément, qui est venu, là, Lavillier, Gilbert Lafaille, Yvan Dautin, des gens comme ça. Et donc, il y a eu ce travail fait dans la chanson auprès des artistes eux-mêmes. À tel point d'ailleurs que quand les ennuis, quand les emmerdements ont commencé, ils sont venus assez rapidement, ce monde artistique a beaucoup soutenu Radio Libertaire. Et parmi les copains de l'aventure Radio Libertaire, qui était également militant de la Fédération anarchiste, c'est essentiellement effectivement Julien qui a été... À la tête de tout ça, parce qu'il avait beaucoup de liens, lui, dans le milieu artistique. Il avait très bien connu, avant tout ça, Bernard Lavillier. Ils avaient des liens assez proches, Julien et lui. Et puis Hervé Trinquier aussi, qui s'intéressait beaucoup à la question artistique. Et puis autour du noyau militant, il y avait ce qu'on appelle la mouvance, etc., avec les sympathisants, parmi lesquels, donc, et là encore, ce sont les liens d'amitié qui ont compté beaucoup. Alain Orange, en premier lieu, qui était effectivement très pote avec Julien, puis qui est devenu l'ami de ce noyau militant. Et donc, je pense que ce travail effectué auprès du monde artistique et de la chanson a œuvré dans la tête de ces copains là, et donc Julien, Hervé Trinquier, Orange et les autres, et que très vite ils ont senti la nécessité d'aller un petit peu plus loin, quoi, de faire autre chose. Il y a eu des expériences d'ailleurs dans des cafés, des restos, dans des sous-sols, où on leur a confié pendant quelques temps la gérance, et où ils faisaient de la programmation. Il y a eu un truc vers Bastille, par là, je me rappelle plus du nom du bistrot. Il y en a eu quelques autres, mais ça a toujours été un peu le flop, parce que les conditions étaient pas terribles. Chanter dans les cafés, les restos, c'est jamais génial. Et donc il y a quelque chose qui a toujours animé ces copains là c'est de trouver un lieu ou faire de la chanson, quoi, un peu sérieusement, quoi. Et donc je crois que ils se sont regroupés, ils ont cherché effectivement un endroit où le faire, et puis après démarre l'aventure avec Lavillier, comme le disait Jean-Paul tout à l'instant, qui leur a signalé l'existence, mais enfin le fait que le théâtre des Jazets pouvait être à disposition, et puis après, ben, à démarrer cette aventure. Ça se passera d'ailleurs après un peu de la même façon. Quand cette aventure du déjà-zé va se terminer, les copains là vont rester encore une fois sans rien. Et donc il y aura, ils remettront le couvert en cherchant un autre lieu. C'est plutôt d'ailleurs à cette période-là qu'a lieu l'aventure des bistrots là et des restaurants, avant que Julien encore une fois trouve ce local près de la porte d'Ivry qui va devenir le forum Léo Ferré. Tout ça s'inscrit dans une continuité, je pense, dans une histoire, l'histoire des galas de la Fédération anarchiste, des liens avec Brassens, avec Ferré surtout, tout au long de sa vie, avec la création de Radio Libertaire, les liens tissés avec ce monde de la chanson, sans lesquels tout ça, je crois, n'aurait pas pu exister, à mon sens.
Alors, ce point important, Floréal aussi, puisqu'il y a un chapitre du livre, c'est comment le fonctionnement même sur 6-7 ans, à la fois par les gens qui s'occupent de faire fonctionner le Théâtre Libertaire de Paris, et puis à la fois comment les relations, qu'est-ce qui le spécifie par rapport à un autre fonctionnement d'un autre théâtre, c'est ça c'est intéressant, et aussi en relation avec tous les gens, tous les artistes qui ont voulu y passer ou qui y sont passés, sur cette période de 7 ans, justement, Léo Ferré a chanté plusieurs fois. Alors là aussi, il faut le rappeler, parce qu'il y a en même temps, on l'évoque aussi, le souvenir de Patrick Font, Philippe Val, hein, à l'époque, Philippe Val et Patrick Font, et aussi...
qui se connaissaient peu.
oui, et qui après, deux ans, se sont séparés. Une longue histoire. Et alors, il y a aussi ça, l'état de ce théâtre au tout début, parce que je te parlais de Alain Orange, de faire de la maçonnerie, c'est-à-dire qu'en même temps on le retrouve à la maçonnerie, et puis on le retrouve à la chanson, et on le retrouve aussi à la technique ou à la gestion de la salle, hein?
Oui, je crois que les copains lui doivent quand même beaucoup. Effectivement, quand ils ont récupéré ce théâtre des Jazets qu'ils ont eu en gérance, hein, ils n'en sont pas devenus les propriétaires. Je crois qu'il était dans un sale état.
Oui, il était pas en très bon état, oui.
Ouais,
il y a un balcon, notamment. Ils ont peu à peu tout refait eux-mêmes, et bénévolement, bien évidemment, ouais. Ou avec l'aide d'entrepreneurs sympathisants qui venaient apporter leurs compétences, leurs outils. Enfin, il y a eu une grosse... une grosse participation, plutôt une forme de solidarité délibérée, qui correspond au cercle de sympathie en général, où beaucoup de gens sont impliqués. D'ailleurs, comme on parlait d'Alain Roche, mais je crois qu'Alain Roche, la veille de l'ouverture du Forum Léo Ferré, des années après, était encore en train de faire de la peinture.
Oui, avec Annick Cizaruc.
Voilà. Partage, c'est une des activités intellectuelles, on peut dire spirituelles et physiques.
Oui, il y a des artistes qui ont effectivement fait travailler de leurs mains.
Oui, voilà. C'est... Comme dans les installations aussi du studio de Radio Libertaire.
Et ils ne sont pas les seuls, il y a des gens du mouvement associatif. Moi, on en a parlé dimanche dernier avec Patrick Kipper, qui a aussi participé à ça, qui était là pour faire des choses assez simples, assez quotidiennes, et qui à l'époque ne s'occupait pas, ne produisait pas, ne dirigeait pas artistiquement des artistes.
Alors l'histoire de main d'œuvre, ça a été le maître d'œuvre, si on peut dire, ça a été Alain Orange. Dans les deux cas, d'ailleurs, enfin d'abord au TLP des Jazets, qui s'appelait le Déjazé, mais que les copains ont rebaptisé TLP Déjazé, Théâtre Libertaire de Paris, Déjazé. Le nom de Déjazé, on peut le dire pour l'anecdote.
Virginie.
D'ailleurs, il y a un chapitre au début de Daniel Panchenko qui raconte l'histoire. Le titre est marrant, d'ailleurs, c'est du bordel à l'anarchie, puisque le lieu a servi un petit peu de
bordel,
de délassement
pour
les messieurs. Ouais. Alors, ça a été un départ de diligence, je crois, aussi, à un moment, un théâtre à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'une comédienne l'achète, dont j'ai oublié le prénom, mais qui s'appelait
Virginie,
Déjazet, d'où le nom de Jazet qui est resté, auquel donc les copains ont accolé l'appellation TLP, Théâtre Libertaire de Paris. Et donc là, il y avait un gros boulot à faire pour remettre en état ce théâtre. Et effectivement, quand il s'agissait de travaux, là, c'était Alain Orange qui prenait la commande, puisque en dehors de ses activités artistiques, il œuvre sur quelques chantiers, et donc il a bossé comme un fou, comme il bossera d'ailleurs comme un fou quelques années plus tard, avec le forum Léo Ferré, hein, qui, pour les gens qui connaissent ce lieu, était un lieu brut de béton. Hein, c'était pas du tout une salle de spectacle, et il a fallu en faire une salle opérationnelle. Et ça, on le doit à Alain Orange. Alors après, il y a eu effectivement le fonctionnement du TLP des Jazets. Moi, j'étais pas dans le coup, hein, je dois le dire, hein, même si j'ai été dans l'association, j'étais pas dans le coup du TLP en tant que membre de l'équipe qui a fait vivre ce lieu. Alors c'est pareil, il y a tout un chapitre dans le livre de Daniel Panchenko consacré au fonctionnement libertaire, comme il le qualifie dans son livre. C'est-à-dire que Hervé Trinquier a quand même été le personnage clé quand même de cette histoire, mais il a laissé la liberté aux gens qui l'entouraient, dans son domaine, quoi. Il n'y avait pas d'interventionnisme de l'un ou des uns sur l'activité des autres. C'était un fonctionnement où, dans chaque domaine, la personne qui s'en occupait était responsable de ce qu'elle faisait. Alors, comme toujours, effectivement, dans ce qu'on appelle le fonctionnement libertaire, il y a quelques trucs, quelques anecdotes un peu rigolotes, un peu marrantes, un peu agaçante parfois, n'est-ce pas, mon cher Gérard? Et mais tout ça est compté dans le livre de Daniel Panchenko, qui est vraiment passionnant, quoi. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Il faut dire un petit mot sur l'auteur.
Alors, justement,
qui est très bien écrit. Jean-Paul a dit tout à l'heure que
Jean-Paul
sait de quoi il parle parce qu'il a suivi.
Oui, Jean-Paul, tu peux en parler peut-être pour lui, pour Daniel Panchenko, ce qu'il a fait, où il était, il a travaillé. Et il a commencé dans la chanson.
Il lui arrive parfois encore de chanter. Ouais. Et puis il est devenu critique, c'est un journaliste, écrivant sur la chanson. Il a fini son aventure de critique de chanson, de critique musicale dans la revue Chorus. Et entre-temps, il avait collaboré comme pigiste. Il n'a jamais été permanent. Il a collaboré comme pigiste à l'Humanité Dimanche. Et c'est là que... il a aussi ouvert les colonnes à des artistes qui n'étaient pas dans la ligne du colonel Fabien, qui marchaient pas obligatoirement au pas, parce qu'il aimait la chanson, il aimait les artistes, et Daniel est un esprit libre. Pour les auditeurs qui veulent un peu comprendre, je pense que son positionnement par rapport à cette collaboration à la presse communiste correspondait à peu près au fonctionnement d'un artiste comme Jean Ferrat. C'est-à-dire pas du tout inconditionnel, disant son mot quand il n'était pas content, et pas vraiment un féodé. Bon, en même temps, il faut reconnaître qu'on lui a foutu la paix et qu'il a écrit à peu près ce qu'il voulait. Donc il n'y a pas eu de drame entre une organisation stalinienne et un individu qui aurait été électron libre. Il a fait son travail, et c'est pour ça qu'il a pu suivre en permanence pendant toutes ces années, d'ailleurs, tout ce qui s'est passé au TLP, en rendre compte. Il en a rendu compte. Il n'a pas pu dire et raconter tout ce qu'il voulait. Évidemment, on lui donnait pas des pages entières toutes les semaines. Et finalement, il a accumulé, parce que ça le passionnait. Il avait d'ailleurs beaucoup de relations plus que cordiales, je pense carrément amicales, avec Trinquier, avec toute l'équipe, qui la gardait. Ce qui fait que la documentation qui lui manquait, il l'a complétée en voyant Trinquier, en voyant Orange, en voyant ces gens-là. Ils ont recoupé leurs souvenirs, et ça a donné effectivement un matériau qui explique la richesse et l'intérêt du livre. C'est-à-dire que sans être acteur, il a
était effectivement un témoin privilégié et continu. Je crois que ça explique ce que disait Floréal, c'est-à-dire la qualité du livre, quoi. C'est, il a eu pour l'écrire le recul historique, mais il avait le matériau du témoin d'actualité de l'époque.
Alors, d'ailleurs, il a rencontré, oui, Ferré à plusieurs reprises, et puis, donc, tu le disais tout à l'heure,
il y a deux interviews, il a gardé deux des interviews qui sont des entretiens complets sur Léo à cette époque.
Alors lui, de Léo, pardon. Justement, il y a un truc, quelque chose plutôt très important, il me semble, pour Paris, on évoque l'Olympia, hein, l'Olympia parle à toutes les oreilles, pas seulement les oreilles libertaires, moins les oreilles libertaires, mais toutes les autres oreilles, alors que le TLP, il évoque Daniel Panchenko, c'est-à-dire que sur cette période-là, 86-92, c'est presque le music hall avec l'Olympia, ou l'Olympia,
oui, hein, non, c'est ça. C'est même aller plus loin, il y a eu de la collaboration entre le TLP à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, c'est apparu sous forme de concerts qui étaient en fait coproduits, cofinancés par l'Olympia et par le TLP des Jazzés, mais en permanence, il y a même eu de l'aide technique, du prêt de matériel, il y a eu un vrai soutien de la part du directeur de l'époque de l'Olympia, qui était le neveu du fondateur de Cocatrix, qui s'appelle Jean-Michel Boris, et qui est un homme qui était, dès le départ, je peux vous raconter une anecdote qu'il m'a racontée d'ailleurs, qui était très lié justement aux artistes libertaires, et qui les a toujours soutenus. Alors, j'ai une anecdote, il y en a deux. La première, c'est que Jean-Michel Boris devait faire des études de médecine, il était lycéen en province. Son oncle, du côté de sa mère, je crois, était Bruno Cocatrix, qu'il a pris un été en stage de technicien à l'Olympia, puis qui après lui a demandé s'il voulait rester. Et en fait, il a posé une question, parce qu'il était absolument... en permanence nourri par les chansons de Brassens, lui et ses copains de lycée, et il lui a demandé si, à la saison prochaine, pour laquelle son oncle proposait de l'engager, sans doute à l'essai, mais de l'engager au-delà du stage, il lui a demandé si Brassens serait au programme, et Jean-Michel dit, bon, il m'a dit que Brassens serait là, donc je suis rentré à l'Olympia. Il a fini par en devenir le directeur, et il a une vraie fidélité, puisqu'on parle de ces deux artistes-là. D'abord, il avait de l'affection pour Ferré, mais Brassens était son repère personnel absolu, si bien que peut-être que les auditeurs le savent, l'Olympia a été détruit, puis reconstruit un peu plus loin, à l'identique. Il y a des petites différences, mais pas grandes. Et moi, la première fois que je suis rentré dans le bureau de Jean-Michel Boris, qui était donc le directeur, il était pendant plusieurs décennies, donc, mais après la reconstruction, dans son bureau, à l'Olympia, contrairement à la tradition précédente où il y avait des affiches partout, dans les couloirs et partout, il y avait une seule photo immense, et c'était une photo de Georges Brassens. Donc c'est pas par hasard, je raconte ça, c'est une anecdote, mais qui n'est pas gratuite, ce n'est pas par hasard que l'Olympia, à cette époque, a collaboré, pardon pour le mot, mais c'est une autre connotation, enfin, a travaillé avec l'équipe du TLP des Jazzés. Il y avait des vrais atomes crochus, je pense aussi des goûts artistiques communs, et vraiment... Il y a eu des coups de main de l'Olympia par Jean-Michel Boris.
Et alors,
pour l'équipe du TLP, oui.
Justement, donc, insister, puisqu'on parle Olympia et Floréal, de ces théâtres, donc, libertaires, de dire tous les artistes qui y sont passés pour les auditeurs. Parce que de voir, justement, si on évoque l'Olympia, les artistes les plus importants de la chanson sont passés au TLP.
Il y a eu du beau monde.
C'est pour ça, des rigolos que les gens diraient, ah oui, cette association de libertaires, de gens qui bricolent. Oui. Et donc, pendant 6-7 ans, l'importance.
Oui, Gérard, tu as raison, au-delà ou à côté de la collaboration, bon, qui était plus souvent souterraine qu'apparente, mais qui existait entre l'Olympia et le TLP, c'est vrai que le TLP s'est substitué à la disparition de Bobino. Donc ça a joué un rôle important. Et il y a des gens qui, pour des raisons de fréquentation de jauge de salle, qui n'auraient pas rempli l'Olympia et qui remplissaient Bobino, par exemple, qui ont pu remplir le TLP, c'est-à-dire qui ont pu donner des concerts au TLP, qui n'avaient plus d'autres lieux.
Et alors Floréal, un peu, on fait quelques noms.
Il y a eu Moustaki, il y a eu Tachan, Lafaille, Gilbert Lafaille, il est passé, il y a eu Lenny Escudero,
Anne Sylvestre,
oui, effectivement, Panchenko, dans son bouquin, je pense pas qu'il les cite tous, mais il en cite quand même
une vingtaine, oui.
Quelques-uns, oui. Graymall Wright a dû passer.
Oui, Graymall Wright aussi, oui.
Voilà, j'ai plus en mémoire, enfin, il y en a eu pas mal.
Ça, c'était possible parce qu'effectivement, comme tu disais, comme tu le disais, en fait, Léo servait. Pratiquement chaque année de locomotive, c'est-à-dire qu'il passait plusieurs semaines.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ce que je disais, dans la foulée de Léo derrière, on pouvait mettre à l'affiche d'autres artistes. C'est-à-dire que Léo a amené le public, qui peut-être aurait été à l'Olympia, qui peut-être allait dans d'autres lieux, à fréquenter, à venir au TLP. Léo était une sorte de caution de qualité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, là où passe Léo, de confiance, on allait pour voir d'autres artistes.
Ouais. Gilles Vigneault, non ?
Oui, bien sûr, Gilles aussi, oui.
Voilà, quelques noms.
Alors, je pense, on va écouter une chanson. Jean-Paul t'a apporté, et puis Floréal. Une des moins connues de Léo Ferré, ni Dieu ni maître. Et donc, pour les auditeurs, la possibilité de nous appeler pendant cette partie musicale. Et alors, tout de suite après, eh bien, puisque on a commencé par Léo Ferré, pour l'histoire évidemment importante du théâtre de Jazet, on va revenir évidemment Georges Brassens et on va voir parler pour cette partie. Et je rappelle aux auditeurs que l'émission de Rimes et de Notes, eh bien, on continue, c'est jusqu'à 14h. Autour de ces deux ouvrages, je vous le rappelle, Léo Ferré sur le boulevard du crime, au TLP de Jazet, des Jazet, 1986 à 92, par Daniel Panchenko, aux éditions Cherche Midi, et puis Georges Brassens, j'ai rendez-vous avec vous. Alors, je le rappelle, Yves Usureau, l'importance pour cet ouvrage, et puis évidemment, Jean-Paul Liégeois, et édité c'est la collection Bouquins, chez Robert Laffont.
Sur le livre de, Gérard, sur le livre de Daniel Panchenko, on peut peut-être signaler le.
Oui, il y a un DVD qui est.
L'existence
qui est
bien sûr.
Exactement. Alors.
C'est le DVD consacré au spectacle que Léo Ferré a donné au TLP des Jazet. Le 8 mai 1988, sur lequel donc figurent 27 chansons.
Deux précisions sur ce DVD. C'est le seul concert de cette époque et de cette aventure qui était enregistré entièrement. C'est le seul pour lequel Léo Ferré a donné son accord. Et ce spectacle est enregistré, tourné, filmé,
voilà, puis ensuite monté
par le fils de Jean-René Cossimon, c'est-à-dire par Raphaël Cossimon. Et c'est un exemple même de, au moment où on parle des 100 ans de la naissance de Léo Ferré, voilà le type de document que au moins les chaînes de télévision de service public auraient pu diffuser. Évidemment,
ceux qui ne l'ont pas fait.
Donc il est dans ce livre, il s'est un peu moins diffusé, mais quand même un petit peu. Et puis il avait figuré dans un coffret à tirage assez limité, assez exceptionnel, qui avait été réalisé par Mathieu Ferré dans le cadre de la maison de disques et d'édition de livres qui s'appelle La mémoire à la mer, que Léo avait créé, que Mathieu dirige, en y publiant beaucoup de CD, mais en y publiant aussi quelques livres, dont notamment la reprise du testament phonographe, c'est-à-dire beaucoup de textes de Léo. Et dans ce cadre-là, il y a eu un coffret qui s'appelle Léo Ferré au Théâtre Libertaire de Paris, c'est-à-dire que Mathieu était délibérément à gommer le déjazet, ce qui ferait pas plaisir à Monsieur Bouquin. Et il y avait un petit bonus dans ce coffret qui malheureusement n'a jamais été commercialisé dans les grands magasins qui vendent de la musique ou ailleurs, et qu'on ne trouve que sur le site de La Mémoire et la Mer, on peut l'acheter là. Et il y avait déjà, donc, mais ça concerne quelques dizaines d'exemplaires, il y avait déjà en bonus dans ce coffret de disques, de CD, il y avait déjà ce film. Mais là, avec le livre, évidemment, il y aura une plus grande diffusion en attendant qu'une chaîne de télévision se décide.
De ce prêtre et la pitié à la fenêtre. Et le client qui n'a peut-être ni Dieu, ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un ballon vers les étoiles. Et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la table. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître. Reine de bal champêtre, je vais ce soir chanter pour vous. Chanter pour vous ce soir de tout mon être. Reine de bal, un chant très fou. Mettez-vous donc à la fenêtre. Le temps est beau, le temps est doux. Le temps est doux, belle, pour me permettre de fredonner à vos genoux. Ce chant d'amour qui ce soir vient de naître, reine de bal pour vous, pour vous. Pourquoi souriez-vous, madame? Vous moquez-vous de mes couplets? Mérite-t-il à ce point votre blâme? Que disent-il qui vous déplaît? Cette chanson qui dit ma flamme n'a ni grand mot, ni pur reflet. Mais elle renferme un peu de mon âme et de mon cœur qui s'envolait. Un peu de votre jeunesse, madame, un peu du ciel qui m'a troublé. Pourquoi pleurez-vous de la sorte, reine de bal en me quittant? Peines d'amour, je le sais, sont bien fortes, mais l'on s'en console pourtant. La vie est là qui vous emporte, mais je me souviendrai longtemps de vos cheveux couleur de feuilles mortes, de vos yeux couleur de printemps. Adieu, amis, vos pleurs me réconfortent. Adieu ami, adieu 20 ans. Adieu ami, adieu 20 ans.
Radio Libertaire, Chronique Hebdo reprend. Alors, Floréal, on a entendu une chanson de Georges Brassens, la dernière, là, Jacques Usureau.
Et Yves.
Yves, et que tu as choisi, qui s'appelle
Reine de Bâle. Alors, ça figure sur un CD. On peut en profiter pour parler d'un autre bouquin, d'ailleurs,
qui n'est pas
au programme ce matin, mais enfin, ça fait rien. Ouais. Puisque c'est sur un CD qui comporte 6 chansons, hein, c'est ça.
Ouais.
Et qui est inclus, lui aussi, dans un ouvrage paru au Cherche Midi, hein,
aussi,
Jean-Paul,
oui.
Que l'on te doit, et qui un bouquin très très intéressant, donc pour les amateurs de Brassens, hein, où sont reproduites, alors le nombre exact, tu vas nous le dire.
Il y en a 67, et c'est 67 premières chansons écrites par Brassens et déposées à la SACEM, dont il n'a enregistré que 3.
3, oui.
L'une étant enregistrée en fait par Patachou. Il y a eu un enregistrement de Brassens aussi pour la radio, pour Europe 1, c'est Le Bricoleur. Et puis, si j'ai bonne mémoire, Les Amoureux des Bancs Publics. Le premier titre d'ailleurs, au départ, ça s'appelait Les Amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Et puis, j'oublie la troisième, pardon. Donc, ces 67 chansons, Brassens les a déposées à la SACEM à partir de 1943. Il était entré à la SACEM. À l'époque, il y avait un concours comme parolier. Ensuite, en 47, il y est entré comme compositeur. Et jusqu'en 52, enfin, disons un peu avant, mais jusqu'au moment où Patachou, justement, l'a fait chanter un soir dans son cabaret, a pris des chansons de lui. Elle l'avait, entre guillemets, on dit avec ce barbarisme joli aujourd'hui, auditionné. Et elle a chanté 2 chansons de lui, mais en lui posant comme condition qu'il chante les autres. Mais de 43, juste avant qu'il soit requis par le STO, donc il a déposé ses premières chansons jusqu'en l'année 52. Il a déposé toutes ses chansons et chose étrange, donc il ne les a pas chantées, à l'exception de 3 d'entre elles. Et ce sont, le livre s'appelle Première chanson, parce que ce sont les premières chansons qu'il a écrites, dont certaines datent d'avant 43, mais il les a déposées en 43, à la SACEM. Il les a chantés en privé, parfois, pour des amis, dans ses débuts en 1953 à Bruxelles, on a un enregistrement, il en chante quelques-unes. Il les a chantés à ses copains du STO, à Basdorf, dans la banlieue de Berlin, où il fabriquait des roulements à billes, pour BMW. Mmh. voilà. Et c'est assez étonnant. En fait, j'ai trouvé un gros manuscrit, enfin, 3 cahiers, dans lesquels figuraient ces chansons en 3 parties. C'est pour ça que le livre est divisé en 3 parties. Sur 3 cahiers successifs, Brassens les a recopiés systématiquement de sa main. Et j'ai trouvé ce cahier quand je cherchais des documents au moment où je travaillais pour la publication du journal, qui était encore un autre livre qu'il a tenu entre 1963 et 1981. Et j'étais vraiment très très étonné qu'il recopie ça scrupuleusement. Et puis j'ai compris pourquoi. Ça peut amuser et intéresser les auditeurs de Radio Libertaire. Voilà comment Brassens, à partir de 1943, déposait ses chansons à la SACEM. Il les recopiait à la main sur un cahier d'écolier, en 2 exemplaires. Il remplissait 2 cahiers, il amenait les 2 cahiers à la SACEM, il en déposait un, et il en faisait tamponner un chanson par chanson, et il repartait chez lui, comme ça il avait la preuve qu'il avait déposé ses chansons, qu'elles étaient protégées. Juridiquement, c'est imparable. Et c'est ce 3 de ces cahiers qu'on a retrouvés. Donc, de la main de Brassens avec les tampons de la SACEM. Voilà. Et je les ai publiés sur les tampons. Et on a adjoint à ce disque, et c'est la deuxième histoire qui a un rapport avec ce livre. On a adjoint un disque original où Yves Usureau a enregistré 6 de ses chansons, mais avec une particularité incroyable, c'est que il en connaissait la musique parce qu'un copain de Brassens au STO, qui avait une oreille extraordinaire et formidable, avait retenu les mélodies et les a chantées un jour à Usuro, en présence du secrétaire de Brassens, Gibraltar. Cette espèce de tour de chant improvisé au cours d'un déjeuner a été enregistré. À la fin de l'enregistrement, Gibraltar, qui avait procédé à l'enregistrement, a tendu la cassette à Yves Usuro et lui a dit « c'est pour toi ». Et Yves Usuro s'est trouvé investi comme ça dans une sorte d'héritage. À l'occasion de ce livre, moi, je lui ai suggéré de transcrire les musiques et de les jouer. Il a donc enregistré 6 chansons. Il y en a d'autres enregistrées. Mais du coup, la continuité du CD par rapport au livre, c'est que le neveu de Brassens, qui est son héritier, a pu déposer 6 nouvelles musiques de Brassens à la chanson l'année dernière, à la SACEM l'année dernière. C'est quand même un truc assez incroyable.
Voilà. Ouais.
Et on voit, évidemment, là je laisse la parole à Floréal, qui est pour la réception de ça, on voit comment il y a les prémices de Brassens dans ces 6 chansons, dans ces 6 exemples.
Oui, alors Floréal, je voulais dire là, puisqu'on a reprécisé le livre, hein, l'ouvrage, Georges Brassens, j'ai rendez-vous avec vous, création et conception musicale Yves Usuro. La spécificité de cet ouvrage, alors on l'a dit, il y aurait peut-être un jour une émission avec Marlène, Rimes et Donuts consacrée à Yves Usuro. C'est la méthode, la spécificité, le roman méthode, apprendre à jouer de la guitare et à interpréter les chansons de Brassens. Et c'est pas quelque chose qui fait 30 pages pour amuser la galerie, mais c'est quelque chose de très très détaillé, très sérieux et une méthode qui est révolutionnaire, on va le dire, pour Yves Usuro.
Oui, alors dans ce oui, la première chose, effectivement, t'as raison, Jean-Paul, je pense que tu seras d'accord, c'est qu'il faut souligner le boulot absolument monumental et incroyable qu'a effectué Yves Usuro. Jean-Paul, tu nous diras que ça s'est pas fait en 15 jours, je crois.
Alors, ça a mis quelques années.
Ah ouais.
Juste avant que tu expliques de quoi il s'agit, c'est né de la façon suivante. Un jour, Yves m'a dit, c'était il y a 6 ans, peut-être presque 7 maintenant, Yves m'a dit, tu sais, j'ai toujours rêvé d'un bouquin où quand je me suis mis à jouer de la guitare et puis à essayer de la jouer comme Brassens et puis à chanter Brassens, j'aurais bien aimé qu'il y ait un livre avec lequel je puisse travailler, où il y aurait les musiques avec les textes des chansons. Ça n'existe pas, c'est le livre dont je rêve. Et il m'a dit en riant, j'aimerais bien le faire un jour. Voilà, et puis c'est parti comme ça, et c'est un livre effectivement très spécifique. Voilà, c'est le bouquin dont il rêvait, il l'a fait.
Alors ce bouquin donc a été fait sur 6 années au moins, là, donc on trouve dedans les 136 chansons que Brassens a enregistrées donc entre 1952 et 1976, donc les textes de ces 136 chansons figurent dans ce livre, avec pour chacune donc des grilles harmoniques et des tablatures pour guitare pour chaque chanson, hein, donc 136 chansons, je le répète, hein, et donc là déjà rien que de dire ça, je pense que ça donne une idée aux auditeurs du formidable travail que ça représente.
Je pense une petite précision, c'est que la grille harmonique, c'est-à-dire les suites d'accords, ces grilles harmoniques font que c'est pas de ce fait pas spécialement pour guitare, c'est-à-dire qu'on peut aller jouer avec n'importe quel instrument puisqu'on a tous les accords. Donc c'est en plus à plusieurs détentes. C'est pensé pour la guitare parce qu'Yves est compositeur, musicien, guitariste, d'où la méthode qui est spécifique. Il y a un roman méthode qui ouvre le livre où il explique. Et tu disais c'est particulier, on peut dire c'est révolutionnaire, on peut employer le vocabulaire qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, il a inventé une méthode pour jouer de la guitare, pour jouer les mélodies, l'accompagnement de Brassens, même si on ne connaît pas le solfège.
C'est ça
l'accessibilité exceptionnelle de ce livre. Mais en plus, grâce au grille harmonique, ça peut servir pour n'importe quel instrument.
Voilà. Alors tout ça est précédé effectivement par le roman méthode que vient d'évoquer Jean-Paul. Roman méthode introductif. Alors je sais pas qui en a eu l'idée de ça. Alors c'est très marrant puisque c'est effectivement ça se présente sous forme d'une histoire, d'un petit roman. D'un jeune homme qui veut apprendre la guitare pour pouvoir chanter au moins auprès de ses amis ou de sa famille les chansons de Brassens, mais qui ne connaît rien
c'est autobiographique, à la guitare. C'est autobiographique d'une certaine façon, puisque Yves est professeur de guitare, donne toutes les semaines de nombreux cours de guitare. Donc en fait, il s'est regardé et il a inventé en fait une fiction, mais qui correspond à la réalité de sa pratique.
Voilà, alors c'est une fiction, effectivement, et bon, c'est très sympa. Hein. Donc ça raconte l'histoire de ce jeune homme qui se présente chez un professeur de guitare, qui se présente un petit peu timidement et à qui il avoue ne rien connaître. Et ce professeur, eh bien, va prendre en main ce jeune homme, à commencer par lui apprendre le vocabulaire de la guitare, hein, les termes qui servent à désigner tout ce qui compose cet instrument. Après, ça va passer par l'achat de la guitare, et là bon, on apprend, quand on n'y connaît rien, quels sont les types de guitares qui existent.
Et il y a un glossaire, hein. Justement, remarquable, qui explique tout ça.
Formidable. Voilà, pour les modes de la guitare.
La guitare est précisée pour les modèles de guitare, les guitares classiques, électriques,
voilà. Voilà, et puis après, ben, au fur et à mesure des rencontres entre ce jeune homme et ce professeur, on va entrer dans le domaine des leçons proprement dites, quoi, qui vont permettre à la fin de ce roman, au jeune homme, de pouvoir chanter les chansons de Brassens en s'accompagnant lui-même, donc
ce qu'il faut dire aussi, c'est illustré, c'est-à-dire que
par
Yves Usereau lui-même
qui dessine. Alors là aussi,
il a tous les talents, ce garçon.
C'est aussi remarquable, beaucoup d'illustrations dont Jean-Paul Liégeois, tu es croqué par Yves Usereau. On t'a reconnu.
Ça, c'est le monde, de Brassens qui l'a croqué. Illustrations utiles et pratiques par rapport à l'instrument, mais il y a aussi des illustrations, sur le monde qui entoure Brassens et la musique de Brassens.
Il est très doué, Yves Usereau. Ses dessins sont très très beaux.
Alors, je voulais juste rappeler aussi la pièce, l'interprétation, puisqu'on parlait tout à l'heure Léo Ferré, le forum Léo Ferré, où Yves Usereau et Annick Roux, un spectacle que tu as monté, Jean-Paul.
C'est différent.
Mais parce que Yves Usereau, on parle de ses talents, donc aussi celui d'avoir participé.
Mais il a participé à ce spectacle. Je suis allé le chercher justement parce qu'il est un interprète de Brassens depuis des années. Il a même rempli Bobino pendant 2 mois, mais pas le Bobino de l'époque, le nouveau Bobino. Enfin, quand même. Il a chanté Brassens à Bobino, c'est assez... l'histoire de ce spectacle, c'est très simple, c'est que j'ai publié le journal de Brassens. Et le journal de Brassens a une spécificité, c'est qu'on y voit démarrer, ou on y voit des éclats, si elle ne démarre pas, de futures chansons. Moi, j'en avais repéré quand j'ai publié le livre 41, et puis des gens encore plus vraiment subtils en repéré deux. Donc, il y a sur cette période 1963-1980, il y a 43 chansons qui démarrent dans ce journal. Donc, on a fait un spectacle à partir de ça. J'ai adapté donc le journal en gardant des séquences qui toutes se terminent par le démarrage ou l'esquisse d'une chanson. Et dans la foulée, Yves Usereau, et Annick, à chaque fin de séquence, interprètent la chanson dans sa version finale, telle que Brassens l'a justement enregistrée. Ça nous renvoie à l'autre livre, J'ai rendez-vous avec vous. C'est la version qui est dans J'ai rendez-vous avec vous, qui est chantée par Yves et par Annick.
Alors, je voulais dire, juste puisqu'elle évoquait toute l'importance de ce roman méthode, avec les partitions, les tablatures, ce qu'avait dit Georges Brassens, c'était en 74 sur Europe 1. On m'a souvent reproché d'écrire une musique facile, J'ai déjà dit à plusieurs reprises, et puisque vous me permettez de le faire, je vais le redire. Ceux qui disent que mes musiques sont toujours les mêmes, ou que mes musiques sont inexistantes, sont des connards. Je l'ai déjà dit, et je suis obligé de le répéter.
Et René Fallet le disait à sa façon, son copain romancier René Fallet disait, ce sont des gens qui ont des oreilles de lavabo.
Voilà pour les difficultés. Alors, on parlait du roman méthode pour apprendre à jouer et puis interpréter les partitions et les chansons de Georges Brassens. Alors aussi, juste
un mot, autre utilité. L'initiative et l'envie d'Yves d'avoir ce livre et finalement de l'inventer, de le fabriquer de toutes pièces, c'est aussi qu'on est dans une période où les éditions musicales n'impriment plus les partitions, ne les diffusent plus, on les trouve plus. Ça se faisait soit par fascicule de 10 ou 12 chansons, soit les fameux petits formats. N'est plus imprimé. Donc l'intérêt du livre, c'est aussi de mettre en circulation la musique de Brassens, la rendre accessible pour tout le monde aussi. Alors, sans qu'on soit obligé de l'interpréter, mais on peut la lire, on peut la découvrir, ce qu'on ne peut plus faire dans les magasins de musique.
Alors, Floréal, Jean-Paul, là, donc, l'émission, tu sais, c'est la jonction entre l'émission Chronique Hebdo de Rimes et de Notes, donc vous restez pour l'émission de Rimes et de Notes, puisqu'on va continuer autour de ces ouvrages. Peut-être Marlène va assurer la présentation. Pour faire la jonction, juste, on pourra passer, enfin, on en passera plusieurs chansons, soit de Ferré ou de Georges Brassens. Et alors, ce que je veux dire, vous avez mis quand même la préface de, alors, une très belle photo, sur le bouquin, où on voit Georges Brassens avec un perroquet sur l'épaule, donc. Et puis, juste au-dessus, la préface de François Morel. Bon, les auditeurs, on connaît François Morel, il intervient souvent et aussi merveilleusement, moi je dis, les Deschiens, très quelquefois controversé, formidable François Morel. Et il explique aussi qu'on a voulu aller impasse Florimond rencontrer Georges Brassens, et puis il a appris au dernier moment, il était très jeune là à l'époque, à l'impasse donc Florimond, que Brassens n'habitait plus là. Il a été rassuré, il s'est dit, le petit écrit, la petite lettre qui était pour lui, j'avais peur de lui donner parce que je me trouvais ridicule, et donc ça s'est bien passé de savoir, quand j'ai appris, j'étais délivré, qu'il n'habitait plus impasse Florimond. Alors donc, on va continuer l'émission. Peut-être ce qu'on peut faire là, c'est passer une chanson, puisqu'on a passé Léo Ferré et puis Yves Usuro, une chanson de Brassens, on va passer Georges Brassens, et plusieurs chansons qu'on va passer au cours de cette émission. Et puis, en saluant, donc, une nouvelle personne dans le studio de Radio Libertaire, vous allez Jean-Paul et Floréal présenter donc cette personne qui interprète aussi.
C'est une petite blonde inconnue.
Et des chansons qui interprètent des chansons de Léo Ferré.
C'est une grande brune, elle s'appelle Alix Isaruc, elle en est son troisième spectacle et deuxième CD consacré à Léo Ferré.
À l'occasion, elle fait de la peinture aussi.
Aussi. Oui, et dessine aussi, peut-être.
Il en reste d'ailleurs des traces, la peinture. Sa peinture est d'excellente qualité. Bon. Non, mais sa peinture est d'excellente qualité, je peux témoigner qu'elle n'est pas écaillée au Forum Léo Ferré.
Alors, est-ce artiste. Oui, à l'écoute de Rives et de Notes, Marlène, tu vas, après une chanson de Brassens, on va passer, la jonction, je l'ai dit, entre Chronique Hebdo et de Rimes et de Notes. Et puis, on se retrouve tout de suite, je vous le précise, c'est Radio Libertaire. Vous pouvez l'écouter sur le 89.4, sur Internet, et le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.